Alors, je lis dans Matthieu 16, les versets 13 à 9, à 19. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée et de Philippe, demanda à ses disciples : Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ? Ils répondirent : Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux.
Luc 5, versets 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver les filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de la terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques sur point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques, de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent.
Dans Luc 15, les versets 8 à 10, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, ou 10 pièces, hein, pour moi ça me parle plus, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent.
Matthieu 28, versets 71 à 75. Comme il se dirigeait vers la porte, c'est au moment où Jésus a été arrêté et il passe devant les Sanhédrins, etc., le soir. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit, donc Pierre, et il dit à ceux qui se trouvaient là, celui-là aussi était avec Jésus de Nazareth. Et il le nia de nouveau, avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage le fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement.
Dans Habacuc 2, verset 14, « Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la recouvrent. »
savez que notre ami Don, qui va prêcher ce matin, il a un petit peu des problèmes dans les jambes, alors il va se permettre de prêcher assis.
Voilà.
Or, je lui ai autorisé. Vous êtes d'accord? L'important, c'est ce que tu vas nous dire. Et on va prier pour toi. Assieds-toi, mon ami. Seigneur Jésus, tu bénis donc, donne tout spécialement maintenant dans ce qu'il a à nous transmettre, à nous dire de ta part. Nous croyons à cette parole, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais des auditeurs qui se regardent dans un miroir, voient comme ils sont et comme tu peux, toi, les transformer. Alors bénis-le et garde-le dans ce moment et aussi dans sa santé, régénère-le. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen.
Amen. Bonjour tout le monde. Salutations de la part de, bien sûr, du Seigneur. Le Seigneur est bon. J'ai reçu un coup de fil la semaine dernière de la part de Paul Robert, demander le message pour aujourd'hui. J'ai dit la conversion de Saint-Pierre. Radio silence. Parce que moi j'habite en France. Et c'est normal de dire Saint-Pierre. Et j'ai dit, oh non, c'est pas possible, on a rié ensemble. Et Paul Robert a dit, Pierre, oui, la conversion de Pierre. C'était quelque chose comme ça, normalement on ne dit pas Saint-Pierre, mais c'était comme ça, voilà. Je crois qu'on a déjà annoncé la naissance de notre petite fille qui s'appelle Zoé. Et on est très heureux avec cette naissance. Et qu'est-ce que ça veut dire son nom, Zoé?
La vie.
La vie, très bien. On a plusieurs points sur le livre de l'Évangile de Luc. On va commencer avec le sens de Pierre. Le sens de Pierre, appelé d'être pêcheur d'hommes. Dans le grec, on voit un nom, un mot pour pêcheur d'hommes, c'est zogreo. Zogreo. C'est-à-dire pêcher vivant. C'est intéressant. Comme zoé, on a zogreo. C'est le mot z-o, c'est la vie, c'est pour... Pas pour pêcher et ignorer ou de laisser tomber par terre, mais de pêcher pour une raison, pour une vie, pour une communauté. C'est, pour moi, c'est bouleversant. C'est déjà le message du matin. C'est incroyable. Voilà, ça, ces choses comme ça m'intéressent beaucoup. Et pourquoi le poisson? Pourquoi Jésus parlait beaucoup des poissons? Parce que tout simplement, c'est l'image de Habakkuk 2, les eaux qui couvrent la terre. Les poissons, c'est l'image de la terre entière remplie de l'Évangile. C'est pas simplement un animal ou un poisson, c'est les eaux, c'est la terre, c'est l'Évangile, c'est le message de Luc, c'est de couvrir la terre. Bien sûr, à ce moment, ils n'ont pas connu la plupart de la terre qu'on connaît maintenant. Pierre était choqué par les miracles. Un miracle des poissons. On a lu ça, de Jésus a commandé de laisser les filets et ils ont attrapé combien de milliers, je sais pas, des centaines de poissons. Mais c'était pas vraiment le miracle. C'était plutôt d'être face à face avec Jésus qui a donné le choix entre Dieu et une vie ordinaire. C'est pourquoi on n'est pas on ne peut pas insister sur un miracle. Seigneur, tu me donnes un miracle, ou sinon je ne veux pas donner ma vie à Jésus-Christ. Mais non, c'est pas ça. C'est le choix entre, dans ma face, Dieu vivant ou ma vie ordinaire. Pour moi, c'est incroyable. Moi, je vois ces choses, ça nous aide de lire l'évangile de Luc. Il y a trois points très forts dans Luc. Luc a écrit l'évangile pour une communauté, pour plusieurs communautés, bien sûr. Une communauté remplie de chrétiens, de grecs et de non-juifs. Et il a fait ça aussi pour les pauvres. Et on voit ça tout le temps dans son évangile. Luc aussi a lutté constamment contre la philosophie grecque. Maintenant, c'est, oh, Don, qu'est-ce que tu parles de la philosophie, oh, Don, pourquoi ça? Non, mais c'est important parce que la philosophie grecque a attribué les objets ou les êtres humains dans le mal, les choses matérielles, matériaux, c'est mal, c'est zéro, mais c'est uniquement l'esprit qui est spirituel. Et avec cette confusion grecque, Luc a lutté contre ça. C'est pourquoi on a les actions de Jésus-Christ. Jésus-Christ prêchait aux hommes. C'est pas seulement une lecture comme des Grecs avaient les idées. Oh oui, peut-être c'est bon, c'est une bonne idée. Voilà, on va penser de ça parce que l'esprit uniquement. Selon les Grecs, est capable d'être spirituel. Il y a un autre livre de Luc, les actes des apôtres, bien sûr. Mais c'est pas les pensées des apôtres. C'est pas les idées des apôtres. C'est les actes. Parce qu'ils luttaient contre cette philosophie grecque. Et pour moi, c'est wow! Maintenant, on voit quelque chose. Et ça peut nous faciliter de lire l'évangile de Luc. La plupart des musulmans avec nous, nous sommes impliqués avec des musulmans, la plupart des musulmans sont convertis après une lecture de Luc. Pourquoi? Je vous demande, pourquoi vous pensez ils sont convertis après ça. Bien sûr, on a les actes. Autres idées? Des histoires. On a des pauvres, c'est non-juifs. C'est exactement ça qui attire les musulmans. Voilà, ça c'est une autre chose. Mais on voulait vraiment avoir ce matin un petit moment de interaction, parce que ça nous aide un peu. Et finalement, Luc est toujours l'homme de la mission. C'est Luc où on se trouve l'homme qui s'appelle Siméon. On a notre fils, il s'appelle Siméon. Siméon portait un bébé, et avec les paroles, ce bébé Jésus-Christ va donner le salut pour les non-chrétiens, pour les non-juifs, pour les gentils du monde. Ça, c'est incroyable de parler comme ça. C'est toujours en Luc qu'on voit la mission, les poissons, la terre, couverte avec les eaux, etc., etc. Bon, la conversion de Pierre, je laisse tomber Saint-Pierre, vous savez, ça existe un poisson qui s'appelle Saint-Pierre. Ah oh bon, on est vraiment dans une famille ce matin, ça va. Pierre avait une confession, bien sûr, on a lu ça. Jésus reprenait la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Parce que Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Est-ce que ça, c'était la conversion de Pierre? Oui ou non? Combien de vous dit oui? OK. Pourquoi? Moi, je ne sais pas. Il a confessé que Jésus est le Fils de Dieu. Pour nous, ça, c'est une bonne chose. Mais on sait que c'est un parcours. C'est pas mal, hein? Un parcours. Ça fait partie de son chemin, son pèlerinage, on peut dire. Mais qui veut dire non? Non. Je sais que tu as une opinion. OK. Puis. Ah, c'est déjà dans le texte. J'ai pas de chance. Voilà. C'est vrai, c'est le Seigneur a ciblé Pierre. Et on ne sait pas. Mais Paul Robert, qu'est-ce que tu voulais dire?
C'est un peu comme moi. C'est lui, c'est un cheminement. Il a dû apprendre beaucoup de choses.
Oui.
Y compris ce moment-là. Moi, le miracle, il est. Je pense que la Terre, pendant toute cette période, on n'en entend pas parler, depuis le reniement jusqu'au moment, même quand Jésus revient, je l'ai dit 5 fois dans la quand Jésus revient, on parle de Thomas, on parle de jamais de Pierre, il plante quelque part.
Oui. 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 Oui.
Et Jésus, tout à coup, le relance, le remet à niveau. Et je pense que toute cette période a été pour lui vraiment une conversion, je dirais que je la mettrais là, une décision, je la mettrais là. Parce qu'il se sentait vraiment pécheur à ce moment.
Mais c'est pas mal quand même de confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu quand même. OK, bon. OK, bon. Je veux pas dire qu'il y a un seul chemin, un seul truc pour confesser telle chose. Parce qu'on peut dire... beaucoup de blabla, sans être vraiment touché dans le cœur, on sait. Mais je veux pas parler contre Pierre. C'est une idée. Deuxième chose, l'obéissance où il a suivi Jésus-Christ. Jésus a parlé à Jacques et Jean, les fils de Zébédée. Les associés de Simon, alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais, tu serais pêcheur d'hommes. Qu'est-ce que ça veut dire, pêcheur d'hommes? Qu'est-ce qu'on a dit? Oui, mais vivant ou mort? Vivant, bien sûr. Oh, c'est une petite chose, mais c'est important. Je ne veux pas dire, ah, merci, tu es chrétien maintenant, au revoir, et laissez tomber. Ah, oh, non. Voilà. Ça m'intéresse beaucoup. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout, et lui, Simon, Pierre, le suivit Jésus. Est-ce que ça, c'est la conversion de Saint-Pierre? Il a suivi Jésus. Oui ou non? Oui. La vie est changée de direction. Oui. Ou non? Non. Non, non. Vous avez des barques? Bon, c'est pas possible d'être sauvé. Non, je plaisante. Non, c'est pas. Non, mais de suivre Jésus, c'est déjà une bonne chose. Je ne peux pas dire que ça fait partie, je pense, de son parcours. C'est-à-dire, si on commence avec Jésus et on retombe, le Seigneur est toujours là de nous donner les occasions, les opportunités de relancer le feu. C'est pas pour dire que moi j'ai une idée, c'est une seule idée, mais voilà, de suivre Jésus-Christ, c'est pas mal. N'est-ce pas? Amen. Ok. Troisième chose. Il y avait la foule. Jésus prêchait aux foules. Il n'y avait pas de place pour Jésus-Christ. Il s'installait dans une barque et à peu près 30 mètres de la foule, vous pensez? 30? Il n'y avait pas de sonneau. 30 mètres. Plus. Plus près. 10 mètres, peut-être. 10 mètres. Non, c'est pour visualiser un peu. Ah oui, moi je ne sais pas. C'est pas écrit. Mais voilà. Jésus est dans la barque. La foule était là. Pierre dans la barque, et qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Oui, mais avant le filet. Qu'est-ce qu'il a fait? Certainement. Moi, je crois qu'il a stabilisé constamment la barque. Hein? Sinon, Jésus-Christ tournait comme ça, parlait au monde. Et là, je crois que Pierre était vraiment soufflé. Hein. Je pense que, ça, c'est le pêcheur. Il a stabilisé je ne sais pas. Moi, j'aime bien visualiser ces choses. Mais après ça, moi, je pense que Jésus prêchait toujours comme dans un rétroviseur. Vous connaissez un rétroviseur? Je connais un homme qui n'utilise pas son rétroviseur. Il est toujours au volant et il parle comme ça. Ça existe des gens comme ça. Ah oui, ça va ta fille, ça, elle va bien? Oui. Ah oui, qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Ah oui, haha, oh. Ça c'est, hein. Faut chercher un autre conducteur, je pense, dans ce cas-là. Mais Jésus prêchait à la foule, en même temps, à Pierre, dans la barque, soufflé. Mais moi, je pense que c'était dans l'intention, l'esprit de Jésus-Christ, de communiquer la parole aussi à Simon-Pierre. Et il demandait à Simon-Pierre de lancer le filet, bien sûr, après. Pendant la journée, on a le soleil qui tape, c'est pas le moment de lancer le filet, c'était pas idéal, mais selon la parole de Jésus-Christ, il a fait, et boum! Il a vu un miracle. Et le miracle, bien sûr, c'était plus qu'un miracle, c'était vraiment l'encontre avec Jésus-Christ qui donnait un choix entre Dieu et une vie ordinaire. Et qu'est-ce qu'il a dit à ce moment, Pierre? Reste avec moi. Éloigne-toi de moi, oui. Parce que je suis un homme pécheur. Est-ce que ça, c'était le moment de la conversion de Pierre, oui ou non? Oui. Oui. Oh oui.
Non.
Et pourquoi oui? Moi, je ne peux pas dire que c'est exactement... Moi, je pense, honnêtement, ça c'est très fort. Pourquoi oui?
Moi, je pense qu'il a pris conscience d'une espèce d'incompatibilité entre sa vie sans le Christ et sa vie avec ce Christ. Il a eu peur, une vraie peur.
Ah oui. Oui. N'est-ce pas? C'est intéressant de voir la gloire de Dieu et de tomber par terre. Jean aussi, en Apocalypse, il a vu la gloire de Dieu, il est tombé par terre. C'est intéressant ça. Parce qu'un homme pécheur, je suis un homme pécheur. C'est très fort. Quatrièmement, Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dit avant que le coq chante, tu me renierais trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. C'était aussi partie de la conversion de Pierre, oui ou non? Oui, oui. Ça fait partie. Et aussi dans nos vies, on a les aspects. On a les aspects qui font partie de notre cheminement, notre pèlerinage. Pèlerinage, c'est trop... C'est pas le bon mot, c'est un peu... Mais notre sentier, notre chemin, notre voyage, sans bagage. Hein? On laisse les bagages. On tourne vers Christ et on laisse les bagages. C'est pas mal. Je vais terminer avec la femme qui a eu 10 pièces, 10 euros, 10 drachmes. Mais elle a perdu une pièce, elle a allumé sa lampe, elle balayait la maison, cherchait avec soin, elle a retrouvé. Ça, c'est Luc. Ça, c'est un exemple de l'évangélisation du monde. Quelqu'un perdu, un brebis perdu. On cherche le perdu. Ça, c'est Luc. Oh, c'est Dieu. Bien sûr, c'est Dieu. Mais c'est intéressant parce que bien sûr, la pièce, c'était quoi? Comme un homme, une femme, un perdu. Mais c'est remarquable que la femme était une image de Jésus. Il n'y a pas de sexualité dans les cieux, hein. Mais c'est Jésus qui cherche tout le temps. N'est pas comme les Grecs avec la philosophie où on les grosses têtes, les pensées et c'est ça. Mais il cherche, il est actif, vivant. Il bouge, il cherche. Et ce matin, je pense que le sens de la conversion de Pierre est distillé dans cette histoire de cette femme. Parce qu'elle cherchait une pièce. On va faire quelque chose ce matin. Entre nous, ici, c'est bien possible que nous avons perdu une pièce. Qu'est-ce que ça veut dire une pièce? Dans nos vies, quelque chose du passé, c'est très mal. Quelque chose du présent, qui est un vrai fardeau. Une personne en a perdu. Ou sinon, une difficulté non résolue. Et je pense que c'est le moment de se voir dans cette histoire, dans ce message, comme les personnes qui aiment Jésus-Christ, bien sûr. Mais il y a quelque chose qui va pas, peut-être. J'insiste pas. Mais si vous êtes là et vous voulez dire oui, c'est quelque chose du passé, du présent, maintenant qui n'est pas vraiment tip-top devant le Seigneur. Et j'ai besoin d'une résolution. Je voudrais bien que vous levez la main maintenant, que je peux prier, simplement prier pour vous. J'ai perdu quelque chose. J'ai besoin de Jésus. Levez la main. Merci. 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 Moi, je vous invite à se lever, vous qui ont fait signe, avec moi, parce que moi aussi, je sais, j'ai perdu quelque chose. Et très discrètement, je prie dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ pour une restauration. Seigneur, je prie que tu restaures, que tu te renouvelles. Faites un revalement dans nos cœurs et que tu restaures les choses dévastées ou dévorées ou perdues, les larmes, les difficultés. Seigneur, je prie pour ça. Parce que j'ai une parole ce matin que le Seigneur, il veut faire quelque chose pour nous ce matin. Seigneur, avec cette parole, je suis convaincu que tu veux faire un miracle. Je prie pour cette bénédiction maintenant, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Merci.